Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez Attitude, votre radio 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 pour Ruffec et Nord-Charente, mais aussi sur www.attitudefm.com et en podcast rubrique sport. Bienvenue dans Culture Sport, votre émission hebdomadaire, chaque lundi 19h-20h30. Nous accueillons Steve Berger, coach de la CH. Pardon, Steve, bienvenue.
Merci, bonsoir.
Merci d'avoir répondu à notre émission. Donc, on va pendant environ une heure parler du club. On pourrait peut-être commencer par cette première question. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la saison dernière, Steve?
Il s'est passé déjà une très longue attente pour pouvoir rentrer en salle au mois de juin. On a repris avec l'autorisation au 9 juin. Donc, on a retravaillé sur la fin de saison avant un mois de vacances en juillet et reprise de la prépa début août et maintenant nous en sommes à la cinquième journée de championnat. On a essayé de gérer cette période de la meilleure façon qu'il soit, si j'ose dire, et période qui était bien inconnue pour tout le monde après ce post-Covid.
Est-ce qu'il y a eu des mouvements donc au sein de l'effectif pendant ce temps-là?
Oui, il y a eu un petit peu de mouvements, plus 4 qui étaient prévus, un pas prévu. Donc et à côté de ça, on a recruté en conséquence. Donc il y a eu quand même le noyau dur est resté stable et il y a eu quelques mouvements. Pour compléter, enrichir, bonifier l'effectif qui avait été construit la saison précédente.
On rappelle justement, Steve, que tu es arrivé donc en Charente en juin 2020. La saison dernière a été très courte, comme tu le rappelais également. Est-ce que tu considères que c'est vraiment ta première saison à la CH ou quand même l'ébauche de saison dernière t'a permis quand même de prendre le pouls avec les filles?
Un peu des deux. Nous ne sommes pas repartis cette saison de zéro comme l'an dernier avec un nouvel entraîneur qui est arrivé. J'avais déjà pris un petit peu de marque au niveau du club, les joueuses arrivant également. Maintenant, malgré tout, on avait fait 3 matchs de championnat, donc c'était vraiment les prémices de ce qui pouvait nous attendre. Donc c'était une petite introduction, mais c'est toujours utile et ça a servi, soit, mais c'était vraiment quand même vraiment minime. Donc c'est la première vraie saison. Donc la saison d'avant nous a permis de mettre quelques petites choses en place et de prendre un petit peu nos marques. Voilà. Après là cette année, l'avantage c'est que on a pu finir de construire l'équipe et bon, voilà, on a un collectif qui est 100% neuf et voilà, c'est la première vraie saison avec encore une fois un collectif qui est en deux ans de temps 100% nouveau. Donc on démarre réellement cette année.
Pour ceux qui vous connaissent pas, Steve, et je ne laisserai pas les copains vous poser des questions de terrain, j'aurais aimé, hein, pour ceux que nos auditeurs qui vous connaissent pas, donc connaître un petit peu votre biographie. Vous avez pratiqué le handball à quel âge? Vous avez joué où et vous êtes arrivé à Angoulême comment?
J'ai commencé le handball pas si jeune que ça, puisque je devais avoir 11 ans et maintenant les enfants grâce aux écoles de hand, aux baby hand, commencent bien plus tôt que ça. J'ai joué jusqu'en National 2 à l'époque et j'ai arrêté de jouer très très jeune puisqu'à 24 ans j'ai arrêté de jouer même un petit peu avant j'ai plus la date exacte mais je crois même un petit peu avant.
Et vous étiez où? Excusez-moi, vous étiez où?
Alors j'ai joué à Gagny du temps du grand SN Gagny 93 en espoir en National 2 et après j'ai fini, si j'ose dire, ma toute petite carrière, si on peut appeler ça une carrière, au club de Bouglay dans la banlieue nantaise.
D'accord.
Voilà, au National 3 là-bas. Mais je me suis très très vite orienté sur l'entraînement puisque à 24 ans je reprenais la National 2 de Bouglay, donc garçon. Oui. Donc j'entraînais Bouglay en National 2 garçon, j'ai entraîné les filles de Nantes en National 1 à l'époque, et ensuite Rosé en National 2, National 1 masculin, et Saint-Nazaire en National 3 puis National 2 masculin, avant de faire ça faisait 16 ans que j'entraînais en National, et j'ai fait deux ans de break, et je suis arrivé après sur Angoulême.
Cette période de break, justement, est-ce qu'elle t'a permis un peu de peut-être d'aller voir des matchs, parce que c'est vrai que quand on est coach, on se focalise avant tout sur son équipe et sur son prochain adversaire. J'imagine que cette période de break de deux ans, ça t'a permis d'aller voir des matchs et peut-être de découvrir de nouvelles sensibilités en termes de coaching ou en termes de jeu.
Non, parce que même quand j'entraîne une équipe, je regarde énormément de matchs. Alors, je ne vais pas spécialement dans les salles les voir, mais je regarde énormément de matchs, que ce soit masculin ou féminin, de LBE, de le Kimoli Star League, de Ligue des Champions, de l'équipe de France. Donc, je regarde une somme de matchs relativement conséquente. Donc, j'en ai pas plus regardé quand je n'exerçais pas, parce qu'encore une fois, il n'y a pas un match diffusé que je ne regarde pas, même si des fois je les regarde en différé. Voilà.
C'est le début de championnat. Donc, après 5 matchs, je crois. Hein. Quel est le bilan? Qu'est-ce que vous en tirez après 5 matchs?
Bah, 5 matchs, 3 victoires, 2 défaites. Oui. On est 4e.
Avec 11 points, c'est ça?
Ça doit être ça. Je n'ai pas vérifié juste avant.
C'est ça, Steve, c'est ça.
La 4e ou 11 points au jour d'aujourd'hui. Ce qui est important, c'est d'essayer de prendre le bon wagon, pardon, en tête de la poule pour réaliser notre objectif qui est de au minima rentrer dans les 5 premiers, voire mieux si affinité. Très honnêtement, nous espérions une victoire de plus, parce qu'on a perdu deux fois à la maison.
Oui, contre Mios, je crois.
Et nous l'avons emporté sur le centre de formation de Tours, là-bas, à Bergerac, et puis à la maison contre Bordeaux. Non, très, très franchement, on espérait prendre une victoire de plus. Bon, maintenant, c'est ainsi. Il faut surtout se projeter sur la suite du championnat et continuer à engranger des points, essayer de prendre le bon wagon pour, quand la hiérarchie va être dessinée, être dans la bonne posture.
La suite du championnat, justement, c'est... Est-ce que le fait d'avoir gagné deux fois à l'extérieur, enfin, finalement, d'être invaincu à l'extérieur, ça vous apporte déjà des certitudes par rapport à ces futurs déplacements?
Ouais, alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que, en fait, depuis le début de saison, on va enchaîner 11 matchs en 12 semaines, ce qui est énorme, surtout après... la période post-Covid. Donc on a enchaîné un premier cycle de 4 matchs, on a eu une mini trêve du d'un week-end, et là on est parti sur un cycle de 7 matchs. Donc on va enchaîner
avec la réception de Limoges, déplacement à Pessac et réception de Nice.
Voilà. Et ça va nous mener à fin novembre. Et donc cette période est encore une fois énorme à gérer. Maintenant, pour répondre, des certitudes, justement, c'est ce que l'on cherche à construire, c'est ce que l'on cherche à avoir, parce que le collectif étant encore une fois tout neuf, on a fait 5 matchs et 3 l'an passé, on a vécu 8 matchs ensemble, et ça, c'est un facteur qu'il faut pas oublier. On se connaît, mais pas si bien que ça. Et par exemple, quand on a joué l'équipe de News, qui est une équipe qui est installée, rodée depuis plusieurs années, avec un noyau dur de joueuses qui est là depuis longtemps, avec un coach qui est là depuis longtemps et qui ont l'habitude par rapport à leur projet de jeu et qui ont vécu des heures et de matchs, des heures et des heures d'entraînement ensemble. Nous c'est pas notre cas. On continue à se découvrir. Il faut qu'on vive des choses ensemble, des bonnes et des moins bonnes pour se construire pour l'avenir. Donc voilà, maintenant on sait aussi les qualités que l'on a,
Je reviens sur la première question qui a été formulée par Christian sur le fait de cette équipe qui, si je comprends bien dans votre intervention, a changé. Ce n'est plus les mêmes joueuses qu'il y avait il y a 2 ans.
À 100%.
Ça veut dire que le club était pratiquement en reconstruction.
On était l'an dernier quand on a eu l'échange déjà entre vous et moi, on l'avait évoqué, on était en complète reconstruction, donc nous y sommes. Bon, maintenant voilà, la reconstruction est en cours, et c'est vrai que le fait qu'il y a eu cette coupure Covid, etc., on l'oublie peut-être un petit peu que d'où l'on vient, et voilà, une complète reconstruction. Moi, c'est la 5e équipe que j'entraîne, et j'ai jamais vécu quelque chose comme ça, c'est-à-dire devoir repartir de zéro. Donc c'est quelque chose à appréhender de manière particulière, et il faut que l'on soit un petit peu patient, si j'ose dire, même si nous avons des résultats.
C'est intéressant, en tout cas, j'imagine, comme quand on est entraîneur, on l'avait évoqué l'an dernier, c'est vrai, mais c'est vrai que pour toi, j'imagine que entraîneur, de repartir sur un projet, c'était même pas tourner une page, c'était prendre un nouveau livre au final et commencer à écrire cette première page. J'imagine que quand on est entraîneur, finalement, qu'on nous dise voilà, il y a tout à reconstruire, il y a un effectif entier à reconstruire. Certes, la montagne est haute, mais j'imagine que c'est excitant de repartir finalement d'être le précurseur de ce projet.
C'est très intéressant. C'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de venir à Angoulême. Maintenant, c'est aussi la montagne est très très haute, si ce n'est la plus haute possible. Encore une fois, quand on arrive, l'entraîneur arrive, il existe déjà en général une équipe, un noyau dur, ou il y a toujours quelque chose. Nous, on partait vraiment comme vous l'avez dit, un nouveau livre à écrire et de pages complètement blanches. Donc ça amène aussi aucune garantie, aucune certitude, et tout ça, il faut qu'on se les construise pour installer les choses, pour se stabiliser, pour gagner des matchs, gagner de la constance, voilà, parce que là, au jour d'aujourd'hui, on est encore dans notre jeu, par exemple, très très fragile, parce que encore une fois, il y a une expression qui le dit bien, on peut pas être avant d'avoir été. Donc c'est aussi un challenge qui est vraiment autant intéressant que complexe et délicat.
Est-ce que ça a été d'autant plus difficile pour fixer des objectifs, Steve ?
Fixer des objectifs, c'est toujours très facile. Ce qui est souvent plus compliqué, c'est de les réaliser. Non, on s'est fixé des objectifs, je pense, raisonnés et raisonnables, parce que les joueuses qui composent ce collectif ont des joueuses, ce sont des joueuses qui ont une certaine qualité. Maintenant, c'est surtout... faut créer une bonne mayonnaise avec... on a les bons ingrédients, mais il faut créer une bonne mayonnaise et pour avoir un bon résultat au final. Donc pour l'instant on s'est fixé l'objectif de rentrer dans les 5. Encore une fois, si on peut faire mieux et accrocher par exemple le podium, voilà. Maintenant, il n'y a pas de limite par le haut, ça sûrement pas.
Quand vous parlez de cohésion, ça veut dire que quand vous prenez cette équipe du HAC il y a 2 ans, il y a quand même des joueuses qui sont d'expérience pour justement que cette cohésion soit rapide sur le terrain. Vous dites, bon, je reprends à zéro, l'équipe a changé à 100%, mais pour avoir les résultats que vous avez aujourd'hui après 5 matchs et avoir connu, comme beaucoup d'autres, des situations compliquées dues au Covid, le recrutement, c'est quand même des joueuses qui jouaient à un certain niveau pour qu'il y ait une rapide cohésion qui s'est faite entre elles et vous.
Oui, alors on a recruté des joueuses de niveau...
Mais les joueuses au niveau national peut-être, non ?
Voilà, on a recruté des joueuses au niveau national. La plupart, ce sont des joueuses en fait... à l'exception de deux qui sont un peu plus plus âgées. Ce sont des joueuses nées entre 1995 et 2002. Ce sont des joueuses pas mal, ont connu des pôles espoirs, voire certaines des centres de formation. Ce sont des joueuses qui même si elles avaient une certaine jeunesse, avaient quand même quelques années d'expérience en national derrière elles, national 1 au minimum. Ouais. Voilà. Donc maintenant, c'est, je dirais que le souci n'est pas les qualités intrinsèques des joueuses, mais encore une fois, le principal, c'est on fait un sport collectif et le principal. La chose principale, mais aussi la plus grosse difficulté, est de réussir à créer un collectif. Et l'ajout de joueuses individuellement de bon niveau, même de très bon niveau, ne veut pas dire que collectivement, le résultat va être bon, voire très bon. Il n'y a pas de garantie là-dessus. Je pense qu'il y a moult équipes et moult sports collectifs qui l'ont prouvé. Donc, ou qui ont prouvé le contraire. Donc, voilà, le travail, là où on est encore, hein, c'est se construire collectivement. Et je pense qu'il nous faudra du temps pour réellement que ce collectif tourne à plein régime avec toutes les qualités qu'il peut avoir. Maintenant, encore une fois, rien ne remplacera le temps et les heures d'entraînement et les heures de match. Pour se construire ensemble.
L'effectif est court ou dans les années à venir, vous espérez, vous parlez de gens quand même qui ont un certain âge et qui à un moment donné vont peut-être arrêter, vont aller dans d'autres divisions inférieures et puis il y a, comme c'est en reconstruction, est-ce que derrière au niveau du hack, vous avez la possibilité de pouvoir faire monter et progresser certainement, mais faire monter des joueuses pour remplacer celles qui malheureusement sont dans l'obligation d'arrêter.
Déjà sur la National 1, on a que deux joueuses entre guillemets d'âge plus avancé. Sinon, encore une fois, les plus vieilles sont de 95, donc c'est-à-dire que ce sont des joueuses qui vont sur 26 ans, ce qui est quand même fort jeune. Ça, c'est donc sur 15 joueuses. 15 joueuses, c'est vraiment c'est relativement court quantitativement. Si le collectif serait un peu plus large, ça serait pas mal. Maintenant, on y travaillera les années futures. Encore une fois, on a que deux joueuses qui ont plus de 30 ans. Donc ensuite, nous avons travaillé au niveau du club pour recruter de jeunes joueuses pour l'équipe réserve de la National 3 qui gravitent autour de la National 1 et qu'on espère à terme pouvoir faire monter sur la National 1, ainsi que quelques joueuses également formées au club.
Mais oui, comme le dit l'expression, Rome ne s'est pas fait en un jour.
Voilà, et c'est pour ça que je dis, il faut être patient, faut laisser le temps le club de se reconstruire d'un côté, il faut laisser le temps aussi à des jeunes joueuses de travailler, de progresser et de les amener dans des conditions dans des bonnes conditions, c'est-à-dire trop tard, c'est pas bien parce que la joueuse mais trop tôt ce n'est pas un bien non plus parce que quand la joueuse elle est pas prête à relever le challenge, ça s'avère souvent compliqué. Donc il faut faire preuve de patience pour amener ces jeunes joueuses dans des conditions le plus idéal possible pour franchir le cap de la N1. Voilà.
Vous écoutez Attitude, c'est votre émission Culture Sport. Chaque lundi, 19h-20h30, nous retrouvons Stige Berger, coach de la CH.
Et puis l'avantage de finalement d'avoir une équipe qui se construit et qui se découvre, c'est que vous avez une grosse marge de progression, que ce soit collectivement et puis aussi individuellement. Les jeunes joueuses vont forcément passer des paliers au fil des mois, au fil de la saison, et collectivement vous allez forcément progresser au fil du temps. Où tu juges les plus gros progrès à faire sur l'entente collective?
Ah oui, je pense que les joueuses ont encore des petites marges de progression individuelles, pas spécialement énormes, mais elles ont encore des petites marges de progression. Je pense que la plus grosse marge de progression que l'on a, c'est collectivement, que ça soit collectivement, globalement, que ça soit dans les relations à deux, à trois, à tous, sur tout l'aspect collectif. Et ça, je pense, tant dans l'aspect offensif que défensif, je pense que il n'y a pas un aspect particulier. Je pense que tout ce qui est collectif et dans tous les compartiments, nous avons une marge de progression, j'irais même importante, voire très importante. Donc, j'ai pas trouvé un facteur, un endroit particulier. Je pense que c'est dans la globalité de notre jeu où la marge de progression est importante.
Oui, finalement, c'est trouver les connexions, et toi, ton boulot principal, c'est de mettre les joueuses dans les meilleures dispositions, et puis surtout de trouver les bonnes connexions entre chacune.
Oui, parce que les joueuses, alors il y a une merveilleuse entente en dehors du terrain entre elles, et ça c'est une excellente chose. Le groupe vit très bien, donc ça c'est super. Les joueuses ont créé des relations entre elles vraiment très très bonnes, très saines, et pour un entraîneur c'est fort agréable quand un groupe vit bien et que il n'a pas à être vigilant sur cette cohésion de groupe qui se passe très bien. Après, les joueuses arrivent d'horizons divers, avec des sensibilités, des formations plus ou moins différentes, dans ce qu'elles ont appris, dans les entraîneurs qu'elles ont eus. Voilà, il y a une grande mixité de formations, de tendances, d'apprentissage dans cette équipe, et du coup il faut réussir à trouver des traits d'union entre chacune pour réussir à partager le même projet, parce qu'encore une fois elles ont toutes un vécu, une expérience différente, quelquefois c'est pas évident, ou c'est pas si évident que ça le paraît, de pouvoir faire jouer deux bonnes choses ensemble quand leur expérience, leur vécu, ce qu'on leur a inculqué, appris, n'a pas été spécialement sur les mêmes choses, quoi, tout simplement.
Bien sûr. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis. Je prends la balle au bon et je vais essayer de marquer le but. Moi, je suis plus spécialiste de football, et c'est vrai qu'en football, notamment à la CFC, au niveau national 2, il y a vraiment une mixité en fait de joueurs qui ont fait des centres de formation et qui n'ont pas percé pour X raisons, des blessures ou alors un petit manque de réussite ou un petit manque de boulot à ce moment-là. Et il y a des joueurs qui se sont fait finalement eux-mêmes et qui arrivent du niveau amateur et qui ont finalement gravi des échelons à force de travail au fur et à mesure. J'imagine que du coup, par rapport à ce que tu nous décryptes, c'est la même chose au sein d'effectifs. Quelle différence globale tu ressens entre les joueuses qui justement ont fait un centre de formation et les joueuses qui ont toujours connu des clubs amateurs? Est-ce que c'est en termes de, je sais pas, par exemple, de déplacement sans ballon, d'intelligence de jeu? Comment tu fais un peu le distinguo entre ces deux cas?
Alors nous quand même beaucoup sont passés par des pôles et après des CF. Beaucoup, donc mais même celles qui, alors toutes celles qui sont passées par ces structures de pôles de CF ont une culture et ont emmagasiné au contact d'un milieu pro ou semi-pro de la culture, de la richesse de jeu, rien que par le contact qu'elle pouvait avoir directement ou indirectement avec le plus haut niveau, elles ont acquéri une certaine culture, habitude de travail, etc., que une joueuse qui n'est pas passée par là, en général, a moins acquis. Donc ça, c'est une chose. Mais les joueuses, même celles qui sont passées par des centres de formation ou des pôles espoirs hein, auparavant, suivant les régions, etc., il y a malgré tout beaucoup de cultures différentes, même si elles ont eu le même
socle.
Ouais, le même socle de formation, un peu la même lignée de formation, le même enchaînement. Eh bien, on s'aperçoit que voilà, entre une fille qui a été formée en Bretagne, une fille qui a été formée à Paris, une fille qui a été formée, bref, en Aquitaine. Bref, il y a des sensibilités dans chaque région un peu différentes en fonction des formateurs, en fonction de la culture aussi qu'il peut y avoir à droite et à gauche. Voilà, donc bon, on fait tous viande mal, hein. mais malgré tout, on s'aperçoit que les origines des joueuses amènent une culture différente et amènent aussi des sensibilités de jeu et donc de formation différentes que si elles viennent d'un endroit ou d'un autre.
Oui, ça doit être dur parce que les plages d'entraînement d'un club ou d'un département à l'autre, c'est changeant. Donc effectivement, aujourd'hui, pour retrouver cette cohésion qu'on parlait tout à l'heure et le collectif, c'est certain que dans la mesure où les plages d'entraînement sont pas les mêmes, oui, c'est compliqué.
Oui, bah c'est pas simple. Chaque région, géographiquement, ça va au-delà des départements. C'est vraiment régional que ça se joue en fait. Par région, on voit des sensibilités, des formations différentes, des richesses différentes, des spécificités différentes d'une région à l'autre dans l'abord de la formation de la joueuse. Voilà. Donc non, c'est sûr que c'est pas évident. Maintenant, c'est aussi tout l'attrait, toute la richesse que l'on peut avoir dans ce groupe avec justement toute cette mixité de joueuses qui arrivent. À droite et à gauche. Maintenant, il faut réussir à créer une unité, il faut réussir à tout être sur la même longueur d'onde. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes capables de l'être, mais nous sommes capables aussi de ne pas l'être. Voilà, tout simplement.
J'imagine que pour toi, Steve, ça doit être un peu compliqué parfois, parce qu'au final, t'as affaire à des joueuses qui viennent de différentes régions. Il y en a qui viennent de la région parisienne, d'autres peut-être de la région nantaise, etc., etc. Mm-hmm. Toi, ton discours, finalement, il doit parler à tout le monde. Donc, c'est peut-être le point le plus compliqué pour toi.
Oui. C'est la complexité de repartir d'une feuille blanche où justement il faut créer cette unité avec des joueuses de différentes régions. Alors même si le gros point commun, c'est que tout le noyau de cette équipe est de la même génération, se connaissait un petit peu, plus ou moins certaines. Mais oui, il faut réussir à créer un amalgame, à créer une cohésion, à créer des liens handballistiques. Et c'est la chose la plus complexe, c'est sûr. Et surtout, encore une fois, en attendant, il faut jouer, il faut gagner, il faut des résultats, ce qui est logique. Mais c'est le travail le plus conséquent pour arriver à tirer la quintessence de toutes les qualités de toutes ces joueuses.
Bon, vous avez pas réussi à demander une trêve de 3 mois pour vous préparer et pour arriver encore plus avec de l'homogénéité sur le championnat.
Trêve de 3 mois. Disons que non, mais
la trêve de 3 mois va arriver. Le problème, c'est qu'il y aura eu beaucoup de matchs qui seront passés avant.
Ouais, on va pas avoir 3 mois de trêve. On va pas du tout avoir 3 mois de trêve. Non, mais déjà
entre fin novembre, entre mi-novembre et début février, il y a pas beaucoup de matchs qui vont être joués quand même.
Non. Là, vous faites erreur sur le calendrier. On va arrêter le dernier week-end de novembre, donc le 28.
Oui, le 27 novembre. Oui.
Ouais, donc pas mi-novembre, mais fin novembre. Oui. Et on reprend à jouer le 8 janvier. Donc nous allons avoir 5 semaines de trêve.
D'accord. Sur le site de la fédération, c'est marqué le 15 janvier et la journée d'après le 5 février. Donc peut-être que ça a été modifié.
Oui, 8 janvier à Bruguière, la reprise.
D'accord, ok.
Donc en janvier, on joue le 8, le 15, le 22, et par contre, nous ne jouons pas le dernier week-end de janvier.
Alors, d'accord, quand, bah, quand... ça a été marqué complètement différemment sur le site de la Fédé, du coup.
Ouais, non, ben là, il y a erreur. Et sur la reprise de janvier, on va avoir 15 matchs en 19 week-ends. Donc c'est pareil, une densité de matchs. Puisqu'on est une poule de 14 avec 13 matchs aller, 13 matchs retour, 26 matchs. Là, on va avoir fait 11 matchs en 12 week-ends. Et en reprenant en janvier, on fait 15 matchs en 19 week-ends, ce qui nous mène à la fin du championnat le week-end de mi-mai.
Alors, comme vous le dites, enfin, justement, il y a un enchaînement de matchs qui arrive. Je suppose que ce ne sont pas des professionnels. Je suppose également qu'il y en a certaines qui travaillent. Et comment vous arrivez à vous organiser pour les entraînements et avec ces enchaînements de matchs et avec quand même un collectif de 15 joueuses?
Alors les joueuses sont quasiment toutes sous contrat.
D'accord.
Maintenant elles sont soit étudiantes à côté, soit elles travaillent. Hein, c'est un fait. On a entraînement mardi, mercredi, jeudi, vendredi soir. Et les joueuses, en fonction de leur emploi du temps, arrivent à en général faire une séance en plus, le midi. Donc en fait j'ai des séances tous les midis, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, en fonction de leur emploi du temps, et viennent. Alors les séances du midi sont plus des séances vraiment individualisées sur les besoins individuels de la joueuse. Les séances de soir sont des séances basées plus collectivement, on va dire, schématiquement.
Mais le fait de retrouver un championnat de 14 équipes, ça, j'imagine que, entre guillemets, le format championnat revient à la normale. C'est vrai que l'an passé, il y avait eu, surtout, il faut me dire si je me trompe, mais il y avait eu des poules un peu spéciales parce qu'avec le Covid, on savait pas trop si la saison allait continuer, s'arrêter. Là, en tout cas, avec un championnat à 14, on peut dire qu'on a vraiment retrouvé la vraie National 1.
Alors, l'an passé, c'est un fait, c'est un championnat en deux phases. Ils avaient fait des mini-poules. Et en fonction des résultats des mini-poules, on devait avoir des play-offs ou des play-downs.
Oui.
Ce qui était une nouveauté, parce que si on devait s'arrêter avec le Covid, voilà, ça mettait des étapes dans la saison. Là, on est reparti sur des poules de 14. Alors, ça faisait plusieurs années qu'on était sur des poules de 12. On est repassé sur des poules de 14. La majorité des entraîneurs, on est plutôt content des poules de 14 plutôt que de 12. Ça fait 4 matchs de plus, oui, mais ça fait... Ça ouvre plus les choses, quoi. On va dire que la majorité des entraîneurs préfèrent les poules à 14 qu'à 12.
Bah oui, parce que plus de matchs dit qu'au final, si on fait une défaite, on se la traîne un peu moins comme un boulet, comme il y a plus de matchs pour se rattraper derrière.
Exactement. Voilà, vous avez tout compris. C'est exactement ça. La majorité des entraîneurs, pour en parler avec les collègues, on préfère tous 14 à 12, même si le fait d'être passé à 14, la Fédé nous a supprimé la Coupe de France. Bon, ça, c'est encore... Un autre point. Maintenant, on a retrouvé la vraie National 1. Je mets un petit bémol là-dessus, c'est que avec les années Covid, il y a eu une inspiration par le haut et il y a 4 poules de 14 en France et il y a eu depuis 2 ans des montées, mais il n'y a pas eu de descente. Donc ça amène une National 1 beaucoup plus large qu'elle n'était auparavant. Et la fédération compte au fur et à mesure à nouveau la réduire pour retrouver une National 1 un peu plus normale. Moi qui l'ai connue auparavant, la National 1 c'était 2 poules de 14. Et maintenant, on a 4 poules de 14.
Donc il y a le double d'équipe au final.
Il y a le double d'équipe en 10 ans de temps. Donc, bon, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver par rapport au nombre d'équipes de chaîne nationale.
D'ailleurs, est-ce que, par rapport à ça, est-ce que l'an prochain, vous avez déjà une vision sur le championnat? Est-ce que la Fédé a déjà prévu, par exemple, peut-être plus de descente cette année pour faire une nationale 1 l'an prochain, mais justement un peu plus élitiste et beaucoup moins d'équipes? Ou est-ce que ça va être étalé sur le temps et on n'a pas, pour l'instant, de communication officielle de la part de la fédération?
Ça devrait passer à, au lieu de 4 poules de 14, ça devrait passer à 4 poules de 12. Voilà. Donc, il devrait réduire et repasser sur des poules de 12. Donc, on va faire réduire le nombre d'équipes. Donc, il y aurait un peu plus de descente à la fin de cette saison. C'était le projet était celui-ci. Bon, je préférerais 3 poules. Voilà. Surtout que Il y a un problème qui se pose, c'est qu'il y a 3 descentes de Division 2 et il y a 4 poules de National 1. Donc ça veut dire qu'en terminant premier de poule, on n'est toujours pas sûr de monter.
Ah oui, effectivement.
Et, l'intégralité des entraîneurs, on est contre et pas du tout d'accord avec ce principe où la moindre des choses sur un championnat, c'est que le premier se retrouve à monter. Donc s'il y avait 3 poules de 14, admettons,
Le premier montrait
et voilà, ce qui est légitime parce que quand sur une poule de 14 on termine premier, j'estime et d'ailleurs tous les collègues on estime tous que la logique c'est que le premier de ces poules monte. Alors voilà, là ça pose un problème par rapport à la D2 voilà un petit peu le problème du moment sur les refontes des championnats post-Covid.
Comment ça se passe d'ailleurs pour les premiers? Il va y avoir alors je sais pas du tout comment ça se passait, mais on peut imaginer potentiellement qu'il va y avoir deux matchs entre les quatre premiers vont jouer. Il y aura deux confrontations. Le vainqueur, les deux vainqueurs pourront monter et les deux perdants vont jouer pour la troisième accession. Comment ça c'est déjà goupillé un peu toutes ces choses-là ou pas?
Non, c'est très flou. C'est très flou. On a fait 5 journées, mais ça reste très flou.
Oui.
Il y avait différentes formules qui étaient soumises, qui étaient discutées jusqu'à montrer les 3 premiers ayant le plus de points, sauf que c'est pas parce que il y a un premier qui a moins de points, si dans la poule elle est plus relevée et plus discutée, un premier peut avoir moins de points, c'est pas pour ça qu'il est moins bon. On parlait d'un final fort sur un week-end avec les 4 équipes et avec demi-finales et finales. Il y a différentes formules qui étaient plus ou moins soumises. J'avoue, je ne me suis pas spécialement beaucoup plongé. Mais bon, de toute manière, honnêtement, ça ne nous convient pas.
Oui, bien sûr. Il n'y a aucune formule qui est parfaite dans ces cas-là.
Non, parce qu'à un moment, un championnat, ça porte son nom, quoi. Si tout le monde joue tout le monde, et à un moment, il y a le résultat à la fin. Et je ne suis pas, et je me permets de dire « on », parce que tous les collègues entraîneurs avec qui j'en ai discuté, on est tous unanimes pour dire que ça nous convient pas. Ce que l'on souhaite simplement, c'est que légitimement le premier de chaque poule puisse accéder. Et le problème, c'est que on peut pas faire descendre 4 équipes de division 2, ça serait trop important, 4 sur 14. Donc la solution, je pense, hein, ou du moins une des solutions, celle qui pour moi me semble le plus simple, c'est de passer la nationale à 3 poules et voilà. Maintenant, bon, on était dans une situation très particulière avec ce post-Covid. J'espère qu'à terme ça disparaîtra cette aberration de 4 poules alors qu'il y en a 3 qui montent à la fin. Pour tout le monde, j'ose espérer. Parce que s'il y a bien une situation que je ne voudrais pas vivre, c'est être le quatrième premier et le con, si j'ose dire, de l'affaire et ne pas retrouver à ne pas monter. Je plains l'entraîneur et toutes les joueuses qui vont être dans cette situation-là parce que je trouve que ce ne serait pas mérité.
Moi, je suis d'accord avec vous sur le principe qu'une équipe qui est première doit monter. Ça se passe dans toutes les fédérations. Il y a quelques, ce sont basket ou hand. Je ne vois pas. Alors que vous êtes battu toute la saison, que le premier monte pas d'office.
Il y a des sports comme ça, le rugby par exemple, en Pro D2, le premier n'est pas sûr de monter.
Ouais, mais je suis d'accord avec toi.
Il a plusieurs chances pour monter, mais il n'est pas sûr de monter.
Oui, c'est vrai ce que tu dis, Christian. Mais tu vois, l'équipe s'est battue toute la saison et malheureusement, ils sont obligés de passer par des poules pour monter. Tu vois, bon, on en parle entre nous, mais on peut...
Alors, si je peux me permettre, c'est soit on a une formule championnat, et dans ce cas-là, ça porte son nom, c'est tout le monde joue tout le monde et
exactement.
Le premier monte. Sinon, c'est comme une Coupe du Monde, hein, avec la Coupe du Monde, à un moment, il y a des...
Oui, avec une phase de groupe et une phase d'élimination directe.
Voilà. Et donc, et là, en l'occurrence, soit on fait... ce que vous venez de citer, le rugby avec des championnats en plusieurs phases, en play-off, etc. Pourquoi pas? Mais moi, ce que j'ai du mal et ce que j'accepte pas, si j'ose dire, dans l'affaire, c'est que ça soit ces spécificités-là pour la nationale féminin. C'est soit tout le monde du handball se met à cette formule avec des phases finales, etc. Voilà. Soit tout le monde reste sur une formule championnat, et si tout le monde reste sur une formule championnat, la National Fille reste sur une formule championnat, il n'y a pas de, il n'y a pas ça au bout. Donc, après, ça se discute, hein, quand on voit au rugby, la finale du championnat de France est quand même un événement hyper important et attrayant dans la saison. Tout le monde en parle, la finale du championnat de France. Donc, il y a aussi des défenseurs de cette formule avec une vraie finale de championnat, etc. Chose qu'on ne voit pas, par exemple, au football ou au handball.
Oui, complètement. Après, c'est culturel aussi. Voilà, c'est culturel le rugby, et ça l'est pas forcément au handball ou au foot, ouais, comme tu le dis, parce que c'est des championnats. Enfin, c'est des sports plus culturellement championnatesques, entre guillemets.
Voilà.
Et pour moi, le plus aberrant, pour terminer sur le sujet, enfin, je vais conclure pour moi en tout cas. Après, je te laisserai réagir, bien sûr. Le plus aberrant pour moi, finalement, c'est que la formule, elle ne soit pas édictée avant le début du championnat. C'est-à-dire qu'on démarre le championnat, mais le premier, Pessac, en ce moment, il sait pas trop à quelle sauce il va être mangé dans quelques mois au final.
Alors ouais, enfin moi, ce qui est, pour terminer sur le sujet, pour moi ce que je trouve aberrant, c'est que ce ne sera pas pour toutes les divisions féminines et masculines du handball que ce soit la même chose. Voilà, terminé. Après, oui, pour le rugby, c'est culturel. Il y a des points positifs dans ces choses de finale, sur le côté festif, etc., etc. Moi, je dis pourquoi pas. La seule chose, c'est que à partir du moment où on fait tous le même sport, en l'occurrence le handball, pour toutes les divisions, on doit avoir entre guillemets le même règlement. Voilà, enfin, moi, c'est mon avis. Mmh. Ensuite, pour comment dirais-je, pour te répondre sur le côté règlement et flou, j'avoue, alors peut-être que il y a quelque chose qui est déterminé et enterré au jour d'aujourd'hui. Je t'avouerai que moi, je me suis pas penché à 100% et posé des questions, etc. Peut-être que depuis, ça a été déterminé définitivement, mais à ma connaissance, voilà, encore une fois, je n'ai pas cherché à avoir l'information. À ma connaissance, j'ai pas vu d'infos officielles et fermes et définitives, pardon, là-dessus. Donc, peut-être que ça a été donné.
Est-ce que vous savez combien il y en a qui descendent dans votre pool?
Oui, alors l'info sur les descentes, on avait les trois derniers de chaque pool, plus de mémoire, les deux plus mauvais.
11e, du coup.
11e, ouais.
14, 13, 12, ouais, c'est ça, exactement.
Eh ben.
Les moins bons 11e, c'est calculé sur. Enfin, moi, je sais que j'ai calculé en foot, c'est calculé sur un prorata sur les matchs contre les derniers, ou c'est au nombre de points global sur la saison?
Nombre de points global.
Ah oui, d'accord, ok. C'est un peu différent, du coup.
Oui.
C'est Culture Sport, vous écoutez Attitude, votre radio, 98.3 Angoulême, 90.7 pour Ruffec. C'est votre émission culturelle de sport chaque lundi 19h-20h30. Nous retrouvons Steve Berger.
Je voulais parler un peu de là, je suis sur le site de la Fédé de handball. Je trouve que c'est vachement bien fait. Il y a beaucoup de stats. Et je vois que votre meilleure buteuse, c'est Clémence Grangy, qui marque presque 5 buts par match. Alors, est-ce que c'est important de s'appuyer sur une joueuse comme ça qui peut marquer 5-6 buts par match, ou est-ce que finalement pour toi la plus grande force c'est le collectif, et si tout le monde marque 3-4 buts, c'est mieux, parce que finalement le danger peut venir d'un peu partout?
Alors, Clémence Grangy.
T'as le droit de répondre un peu des deux. Hein.
non, mais je vais répondre. Clémence Grangy fait un très bon début de championnat. C'est une recrue qui. C'est une joueuse qui arrive cette année, même si. J'avais cherché à la faire venir l'année d'avant, mais ça n'avait pas été possible.
Je m'excuse, Steve, de te couper. Elle vient d'où
Alors, c'est l'an dernier, elle jouait en National 2 à Essine, mais avant elle a joué à Bègle en D2, et elle a été formée au Havre, au centre de formation du Havre. Elle est même aussi passée auparavant par le centre de formation de Fleury. Voilà. Après, j'apprécie son bon début de saison. Maintenant, simplement pour expliquer pourquoi Clémence a un peu plus scoré. Clémence a été depuis le début de saison la tireuse de pénalty numéro 1.
D'accord.
Et du coup, dans les stats, n'apparaît pas la différence avec et sans pénalty. C'est vrai que c'est ces stats. Dedans, il y a le nombre de pénalties. Alors attention, hein, les pénalties, il faut les tirer, il faut surtout être en mesure de les marquer. Mais ce que je veux dire, c'est que ça change un petit peu la donne. Si sur le nombre de buts, c'est des buts que sur le jeu, ou si dedans, c'est sur le jeu plus les pénalties. Donc c'est là où voilà, je veux expliquer le scoring de Clémence. Donc après, je dirais que je suis un peu plus adepte. Si 12 joueuses de champ marquent 3 buts chacune, on est à 36. Donc je suis un peu plus adepte de cette formule. Maintenant, on sait très bien que voilà, il y a des matchs où il y a plus de réussites pour certaines que d'autres. Il y a des matchs aussi en fonction de l'adversaire et comment joue l'adversaire. C'est plus facile pour certaines de scorer que pour d'autres. Voilà, tout simplement.
Il y a là aussi un anglais sur les gardiens où il y a le nombre de d'arrêts par match. Alors j'imagine que c'est faudrait plutôt comparer peut-être ça au nombre de minutes jouées sur le terrain, mais c'est révélateur quand même. Par exemple, on voit que votre gardienne numéro 1, enfin entre guillemets numéro 1 à ce classement, Aloïs Moras, elle a le 7e ratio en N1. Est-ce que finalement c'est des stats qui sont parlantes ou faudrait vraiment mettre ça en termes de minutes de jouer par match?
Alors, malheureusement pour les gardiennes de but, mais aussi pour les gardiens, les stats ne sont pas très parlantes. Si bien malheureusement parce que c'est un poste très important, voire primordial, et qui n'est pas spécialement bien mis en valeur. Déjà, d'un match sur l'autre, ils ne sont pas spécialement bien comptabilisés, premièrement. Deuxièmement, suivant comment ils sont comptabilisés, parce que tout le monde ne les comptabilise pas spécialement de la même manière. Et par exemple sur le milieu professionnel, sur les ligues nationales, c'est comptabilisé de manière peu favorable aux gardiens de but. Et puis ensuite, c'est vrai que ce qui est important, c'est le nombre d'arrêts, mais je dirais que c'est surtout le pourcentage qui compte, parce que le nombre d'arrêts, ça dépend effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
Du nombre de tirs aussi qu'on reçoit. Si on arrête 10 ballons sur 30 tirs et si on en arrête 10 sur 20, c'est complètement différent.
C'est clair, et puis ça dépend aussi quand même du temps passé sur le terrain, obligatoirement. Entre un gardien qui au bout de 5 journées va avoir fait 2 matchs, il va avoir joué 2 fois 15 minutes et avoir été très bon sur 15 minutes, et une gardienne qui peut avoir fait 4 heures de match sur 5 heures, c'est pas du tout la même chose. Donc bon, malheureusement, bon, ça a le mérite d'exister, hein. Mais je pense que il y a vraiment du travail à faire pour mettre ces gardiennes et ces gardiens de but, parce que ils sont à la même enseigne dans le handball, hein, les gardiennes et les gardiens, en valeur, parce que Dieu sait que c'est un poste important.
Complètement, ouais. Et juste après, je laisse Dédé parler promis, mais est-ce que
une dernière question.
On voit en football notamment qu'il y a des entraîneurs spécifiques pour les gardiens. Est-ce qu'il y a des entraînements spécifiques pour les gardiennes chez vous en balle?
Oui, moi je fais une séance à la semaine. Quand je vous parlais tout à l'heure de travail spécifique au poste, je fais une séance à la semaine avec pour le poste de gardien de but. Maintenant, c'est aussi quelque chose qui a peu, globalement, il y a peu d'entraîneurs de gardiens ou des gardiennes de but, même dans les structures professionnelles. Quand je dis que il y a vraiment du travail pour mettre ce poste en lumière, il y a vraiment beaucoup de travail, mais aussi autant on trouve des préparateurs physiques, autant on trouve c'est très très bien, hein, d'autres intervenants dans les staffs, autant il y a peu de staffs qui ont des entraîneurs pour les gardiennes de but ou pour les gardiennes de but. Voilà.
Dans la continuité de la discussion de la question à Christian, Steve, vous vous occupez de l'ensemble de l'effectif ou il y a plusieurs personnes autour de vous?
Non, je m'occupe de l'ensemble. J'ai un préparateur physique avec moi, Thomas Grondin, qui fait de très bon travail, qui est un jeune préparateur physique qui est qui vient d'être diplômé, mais sinon je suis tout seul.
D'accord. Et vous préparez la composition de l'équipe à quel moment de la semaine?
L'avantage au handball, c'est qu'on a une feuille de match à 14, que quand oui. tout va bien, j'ai 15 joueuses, donc ça veut oui. dire que j'ai une joueuse qui ne peut pas jouer avec nous. Sinon, avec 14, on peut jouer. Et l'avantage de l'entraîneur de handball, c'est que
les changements,
il peut faire autant de changements qu'il veut, quand il veut. Donc à partir de là, les compositions, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, puisque on a cette
richesse
de pouvoir évoluer avec les 14 joueurs à tout moment.
Non, mais ce que je voulais dire, oui, bien sûr, j'ai bien compris que vous avez 14 joueuses, tout le monde peut jouer. Hein, voilà. Mais c'est en fonction de l'adversaire. Est-ce que vous regardez le classement de l'adversaire s'ils encaissent beaucoup de buts ou s'ils défendent bien ou c'est en fonction de ça ma question, je l'ai peut-être mal formulée.
Il existe une plateforme où tous les matchs de National 1, National 1 féminine sont répertoriés, sont dessus, celle de la CH comme les autres, et donc ça nous permet d'étudier l'adversaire en vidéo. Donc
très bien.
On parlait du groupe tout à l'heure, Steve. Est-ce que il y a des joueuses de l'équipe B qui sont susceptibles d'intégrer l'équipe Fagnon?
À terme, pourquoi pas, oui, tout à fait.
Elles évoluent à quel niveau, la B, Steve, déjà?
National 3.
National 3, d'accord, ok. Donc, il n'y a pas un grand fossé entre l'équipe première et l'équipe B?
Il y a deux divisions, et bon, il y a quand même une différence de niveau, forcément. Hein. Ouais. Maintenant, il faudra laisser le temps à ces jeunes filles qui sont partenaires d'entraînement des National 1 de travailler, de progresser, comme je disais tout à l'heure, pour permettre d'intégrer la nationale.
Une dernière question. Vous êtes venu, donc, vous connaissiez la Charente et je voulais vous poser ma dernière aussi. Comment vous vous sentez en Charente depuis que vous êtes là, depuis 2 ans?
Alors, non, je ne connaissais pas la Charente, ou plutôt très, très peu. Et puis après, ça fait pas 2 ans que je suis là parce que l'an passé, j'ai été là de août à octobre et après, je suis revenu qu'en juin parce que tout a été arrêté. Donc, je découvre encore la Charente. Là, je suis là depuis le mois d'août. Bon, même si je passe énormément de temps plutôt au gymnase plutôt que à découvrir la Charente maintenant. La Charente m'a l'air bien, bien jolie et bien sympathique. À poursuivre, à découvrir.
Steve, on te remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours intéressant de faire avec toi au moins une fois par an un point sur la CH. Donc, ça nous a permis de parler du club et c'est une bonne chose. Donc, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir de passer du temps avec toi. Voilà.
Avec plaisir, c'est moi qui vous remercie.
On te souhaite le meilleur à toi et à ton équipe. La santé d'abord, tout va bien.
Merci. À bientôt.
À bientôt.